Gino Testa, bonsoir et bienvenue sur Radio Maria France.
Oui, bonsoir.
Voilà, on vous retrouve pour cette émission mensuelle sur Padre Pio.
Voilà, Padre Pio, lorsqu'il était à San Giovanni Rotondo, un petit peu autour des années 20, avait écrit pour les jeunes dont il s'occupait quelques méditations qui ont été éditées beaucoup plus tard, dans les années 1960. Mais il avait fait ses méditations sur Noël, donc sur le jour de l'an, aussi sur Jésus au Mont des Oliviers, et une troisième sur l'Immaculée. Alors voilà ce que disait Padre Pio pour le jour de l'an. Dès aujourd'hui, ô mes frères, il faut que nous débutions dans les œuvres de bien, parce que jusqu'à présent, nous n'avons rien fait. C'est saint François d'Assise qui disait ça. Et Padre Pio continue, nous aussi. Nous devons répéter ces paroles au début de la nouvelle année. De fait, nous n'avons rien fait jusqu'à maintenant, ou tout au moins bien peu de choses. Nous avons vécu dans l'insouciance, comme si un jour le juge éternel ne dût pas nous appeler pour lui rendre compte de nos actions, autant que de la façon dont nous avons utilisé notre temps. Et ensuite, il dit, et si Dieu devait prononcer la condamnation, voici, va au serviteur infidèle au moment où on passe au jugement, va dans le feu éternel. Ce serait alors pour nous la fin à jamais, ou plutôt le commencement de peines atroces et de tourments indicibles qui ne se termineront jamais. Je trouve que c'est important. Quelquefois, on peut se dire, ah ben tiens, tout sera fini. Non, ce n'est pas une fin, Padre Pio nous dit, hein. C'est un commencement ensuite. Et il poursuit. Notre dernière heure, une fois sonnée, les battements de notre cœur terminés, c'en est fait pour nous. Il ne nous sera plus permis ni de mériter, ni non plus de mériter. Nos larmes, les cris de notre repentir, qui auraient pu sur la terre nous permettre de vaincre le cœur de Dieu, maintenant ne servent à rien. Le temps de la miséricorde est passé, à présent, c'est le temps de la justice, dit Padre Pio. Et ensuite, il dit que si on ne va pas du bon côté, ben on n'aura plus la vision de la Vierge, de Jésus, des saints. On ne pourra plus voir les personnes qu'on a aimées. Et on demeurera parmi les damnés, dit Padre Pio. Et il dit donc, il ne faut jamais remettre au lendemain ce que l'on peut faire le jour même. Nous sommes à l'aube d'une année nouvelle. Il faut que cette année nous serve pour réparer les fautes du passé, mais surtout, il faut qu'au bon propos suivent de pair les bonnes œuvres. Ô mon âme, dit souvent Padre Pie, ô mon âme, commence dès aujourd'hui à bien opérer. Ne soyons pas faibles, car il est hors de doute que Dieu est toujours prêt à nous aider. Il est toujours fidèle à ses promesses. Allons donc entreprendre nos saints combats au début de la nouvelle année. Voilà ce qu'avait dit Padre Pio. C'est un peu dur quelquefois. Padre Pio aime les gens, mais il dit quelquefois, pour certains, il faut des canonnades pour faire comprendre les choses. Et là, il dit des choses assez fortes, hein, voilà. Maintenant, on va écouter la voix de Padre Pio.
De Jésus et Marie.
Sois loué, Jésus et Marie.
Jésus nous dit dans l'Évangile
que le Christ n'est pas promis à celui qui commence bien, ni à celui qui continue un certain temps, mais à celui qui persévérera jusqu'à la fin. Donc que celui qui a commencé cherche à persévérer toujours. Que celui qui a poursuivi cherche à arriver à la fin. Et que celui qui n'a pas commencé se mettre sur la bonne route. Efforçons-nous de persévérer. Je sais que c'est difficile. Toutefois, l'exemple des saints, l'aide de la Vierge très sainte et la grâce de Dieu, qui est toujours prêt pour qui demande, ne manquera pas. Pour cela, armons-nous de constance, de patience et de persévérance. Et alors se vérifiera ce que Jésus lui dit dans l'Évangile. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je vous souhaite à tous une bonne nuit, pleine de grâce et de bénédiction. Voilà. Voilà, aujourd'hui, on va parler des stigmates de Padre Pio. Donc, on sait que Padre Pio est arrivé en 1916 à Foggia pour aller voir Raffaele Cerase. Et Padre Fortunato, qu'on entendra tout à l'heure, a été longtemps à Foggia. Et ensuite, il va à San Giovanni Rotondo. De San Giovanni Rotondo, il a fait quelques petits déplacements à Naples pour des visites médicales surtout, enfin pour des visites médicales. Il est allé à Rome aussi une fois avec Padre Benedetto pour accompagner une de ses sœurs qui s'est faite religieuse chez la congrégation de Sainte Brigitte. Là, il a visité les catacombes et d'autres monuments. Et il a prié longuement sur la tombe de Saint-Pierre. À cette époque, en 1917, il est monté aussi une fois, c'était le 1er juillet, en pèlerinage avec les jeunes dont il avait la charge, au Mont Gargano, à Monte Sant'Angelo, au Mont Saint-Michel, donc. Et ensuite, il y a quelque chose d'important aussi dans cette période, en 1918, lors de la fête du Corpus Domini, au moment de l'offertoire, Padre Pio s'offre en victime, il s'offre pour les victimes aux intentions de Benoît XV. Et c'était pour que la guerre cesse. Et je trouve que c'est intéressant parce que lorsque Pie X était mort en 1914, Padre Pio avait dit « Pie X est une âme sainte et noble comme il n'y a jamais eu l'équivalent à Rome ». Et Padre Pio avait dit que Pie X était la première victime de la guerre de 14. Donc Pie X s'est donné pour que la guerre n'éclate pas. Et Padre Pio, quelques années après, en 1918, s'offre en victime pour la guerre, pour que la guerre de 14 cesse. Donc c'était au mois de mai 1918 et la guerre a cessé un petit peu après. En 1918, le 5 ou 6 août, il y a quelque chose de très important qui est arrivé dans la vie de Padre Pio. C'est ce qu'on appelle la transverbération de l'âme avec une blessure physique sur le côté. Padre Pio parle de ça dans une lettre à Padre Benedetto, son directeur spirituel. C'est une lettre du mois d'août 1918. Alors, que dit Padre Pio à ce sujet ? Je vais la lire donc. Hein. Le 5 au soir, j'ai été en train de confesser les garçons quand je fus saisi soudain d'une terreur extrême à la vue d'un personnage céleste qui se présentait à l'œil de mon intelligence. Il tenait à la main une sorte d'objet semblable à une très longue lance de fer dont la pointe était bien effilée. On aurait dit que du feu jaillissait de cette pointe. Voir tout ceci et observer ce personnage lancer à toute force cet objet dans mon âme fut une seule et même chose. Ce martyre dura sans interruption jusqu'au 7 au matin. Je ne saurais vous décrire ce que j'ai souffert pendant cette période si douloureuse. Je voyais que même mes viscères étaient arrachés et tiraillés par cet objet et que tout était mis au feu et à sang. À partir de ce jour, j'ai été blessé à mort. Au plus intime de mon âme, je sens une blessure toujours ouverte qui me fait souffrir constamment. Et il ajoute dans sa lettre, « N'est-ce pas une nouvelle punition qui m'est infligée par la justice divine ?» Donc ça, c'est la transverbération de Padre Pio. On est en période de pandémie actuellement. Il faut savoir qu'en 1918, Padre Pio a été atteint de la grippe espagnole. Il est resté pendant une douzaine de jours couché et il écrit à son directeur spirituel en disant « Je reviens vers vous avec après un long silence » parce qu'il n'avait pas pu écrire pendant cette période. « Je suis resté au lit avec la fièvre espagnole qui ici aussi fait un carnage de mort. » Ensuite, les stigmates. c'est le 20 septembre 1918 que Padre Pio reçoit les stigmates visibles et permanents et qu'il gardera jusqu'à sa mort en 1968. 8 ans avant, en 1910, Padre Pio avait déjà reçu les stigmates, ce que l'on a appelé les stigmates invisibles et non permanents. Il était à Piana Romana, et là, devant l'orme, il a ressenti une douleur aux mains et aux pieds, une petite rougeur, et Padre Pio a supplié le Seigneur pour, non pour que la douleur cesse, mais pour que ça ne se voit pas. Il était très confus, très honteux d'être marqué ainsi par les stigmates, par ces stigmates que le Seigneur avait eus. Je signalerai que le 20 septembre 1918 était un vendredi et que Padre Pio a reçu les stigmates entre 8 et 9 heures et que 9 heures en Europe, ça correspond à la troisième heure dans l'Évangile. Et quand on lit Marc, c'est à la troisième heure qu'ils crucifièrent Jésus. Voilà, c'est simplement une petite remarque. Alors, l'arrivée des stigmates sur Padre Pio, il en a parlé par obéissance à son directeur spirituel. Voilà comment il explique ceci. Donc, il répond par obéissance. Que vous dire pour répondre à ce que vous me demandez au sujet de ma crucifixion, dit Padre Pio. Il écrit ça à Padre Benedetto. Et cette phrase est très forte, celle qui va le suivre. Ça montre bien la confusion, la gêne, l'humilité de Padre Pio. Il écrit « Mon Dieu, quelle confusion et quelle humiliation j'éprouve à devoir manifester ce que tu as opéré dans ta si misérable créature. » Je répète « Mon Dieu, quelle confusion et quelle humiliation j'éprouve à devoir manifester ce que tu as opéré dans ta si misérable créature. » Et il explique ensuite « J'étais au cœur, dans la matinée du 20 du mois dernier. Après la célébration de la Sainte Messe, j'ai été surpris par un repos semblable à un doux sommeil. Tous mes sens intérieurs et extérieurs, et pas seulement les facultés de l'âme, se sont trouvés dans une quiétude indescriptible. Cela dans un silence total, tant intérieurement qu'autour de moi. Aussitôt, il y a succédé une grande paix, une résignation à être privé de tout et une pause dans le même affaissement. Tout cela s'est passé en un clin d'œil. Et pendant que tout cela se passait, j'ai vu devant moi un mystérieux personnage, semblable à celui du soir du 5 août, dont j'ai parlé tout à l'heure. C'était la transverbération. À ce moment-là, Padre Pio, pour la rive des stigmates, se trouve à San Giovanni Rotondo, dans l'église, devant le crucifix qu'on peut voir à Sainte-Marie-des-Grâces. J'ai vu devant moi un mystérieux personnage semblable à celui du soir du 5 août, qui s'en différenciait seulement en ce qu'il avait les mains, les pieds et le côté qui saignait. Sa vue m'a atterri. Je ne saurais vous dire ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Je me sentais mourir et je serais mort. En effet, si le Seigneur n'était pas intervenu pour me soutenir le cœur, que je sentais bondir hors de ma poitrine. Ce personnage disparut de ma vue et je me suis aperçu que mes mains, mes pieds et mon côté étaient transpercés et laissaient couler du sang. Imaginez le supplice que j'ai alors éprouvé et que j'éprouve continuellement, presque tous les jours. La blessure du cœur saigne constamment, spécialement du jeudi soir au samedi. Mon Père, je meurs de douleur, tant par le supplice que par la confusion qui s'ensuit au plus profond de mon âme. J'ai peur de mourir exsangue si le Seigneur n'écoute pas les gémissements de mon pauvre cœur et ne cesse cette opération. Jésus qui est si bon, me fera-t-il cette grâce? M'enlèvera-t-il au moins la confusion que j'éprouve devant ces signes extérieurs? J'élèverai fortement la voix vers lui et je ne cesserai pas de le conjurer de me retirer en vertu de sa miséricorde, non pas la torture, ni la douleur, car je vois que c'est impossible, et je veux m'enivrer de douleur. Mais ces signes extérieurs qui sont pour moi d'une confusion et d'une humiliation indescriptible, insoutenable. Voilà, à partir donc du du 20 septembre, Padre Pio a reçu les stigmates. Alors, je rappelle simplement que quelques années avant, lorsque Padre Pio avait été ordonné prêtre en 1910, il avait écrit derrière une petite image pour commémorer son ordination « Jésus, mon souffle, ma vie. Aujourd'hui, en tremblant, je t'élève dans un mystère d'amour. Qu'avec toi, je sois pour le monde voix, vérité, vie. Et pour toi, prêtre saint, victime parfaite. » Voilà. Que s'est-il passé après? Donc, ça se passe le 20 septembre. La première fille spirituelle qui voit les stigmates, qui se rend compte de quelque chose, c'est Philomène à Ventrelle, une de ses filles spirituelles. Le lendemain, c'est Nina Campanile qui les voit. Et le même jour, il y a les élèves, les jeunes dont Padre Pio s'occupait, les jeunes du collège séraphique, qui se rendent compte aussi que Padre Pio a les mains rouges. Le père gardien du couvent, qui à l'époque était Padre Paolino, on est informé 8-10 jours après par Nina Campanini. Il éclate de rire quand elle lui dit ça, mais Padre Pio, les stigmates, je le vois tous les jours. Elle dit, c'est vrai. Et là, il se rend compte que Padre Pio était stigmatisé. Donc le bruit se répercute dans San Giovanni Rotondo, donc bien sûr, hein, stigmatisé. Quelques mois après, donc c'est au mois de mai, Padre Benedetto, qui était le supérieur des Capucins de la région, envoie un médecin, le docteur Romanelli, qui était le chef de service de l'hôpital de Barletta, qui se trouve dans les Pouilles un peu plus bas, pour ausculter Padre Pio. Et lui fait un rapport, il comprend les choses, il écrit dans son rapport, il exclut que la cause des liaisons de Padre Pio soit d'origine naturelle. L'origine doit être recherchée sans risque d'erreur dans le supranaturel. Et le fait constitue en soi-même un phénomène non explicable par la seule science humaine. Donc c'est le premier médecin qui voit Padre Pio. Et à ce moment-là, tout de suite après, deux mois après, il y a les premiers articles qui apparaissent dans la presse, dans les journaux italiens, dans Il Tempo, dans Le Matin de Naples, et Padre Pio devient une célébrité malgré lui. Hein. Les gens viennent se confesser, viennent à San Giovanni Rotondo. Il écrit d'ailleurs à ce moment-là, dans une lettre à Padre Benedetto, « Je n'ai pas une minute de libre. Tout mon temps est passé à tirer les frères des griffes de Satan. » Padre Pio confesse. Cette année-là, toujours, c'est le procurateur de l'ordre des Capucins qui envoie un professeur de Rome, le responsable du service de pathologie médicale de l'Université de Rome, pour ausculter Padre Pio. Alors lui émet un jugement, fait un rapport extrêmement défavorable. Je mets simplement une phrase. Voilà ce qu'il dit. On peut penser que les liaisons ont commencé avec des produits pathologiques et ont été peut-être inconsciemment et par un phénomène de suggestion complétées dans leur symétrie et maintenues artificiellement avec un moyen chimique, par exemple la teinture d'iode. Par contre, il ajoute, l'impression de sincérité que m'a fait Padre Pio m'empêche de penser à une simulation. Et là, il y a la première photo qui est toujours dans cette année 1919. C'est la première photo de Padre Pio stigmatisé que l'on voit souvent. On voit Padre Pio, le visage très, très triste avec les mains. C'est la première photo et c'est la photo vraiment prise pour voir les stigmates de Padre Pio. Elle est prise par un capucin. C'est Padre Placido qui fait ça. Et il y a un troisième médecin qui va venir l'année suivante, en 1920, c'est Giorgio Festa, qui est envoyé, lui, par le général de l'ordre. C'est un médecin de Rome qui a la confiance de la curie générale des Capucins. Alors lui, fait un rapport extrêmement favorable, et d'ailleurs, le docteur Festa fait partie des fils spirituels de Padre Pio. Hein. Il écrit « Les liaisons ne sont pas le produit d'un traumatisme d'origine externe. elles ne sont non plus pas dues à l'application de substances chimiques potentiellement irritantes. En conclusion, les liaisons que présente Padre Pio et les hémorragies qui se manifestent, une origine que nos connaissances sont bien loin de pouvoir expliquer. Leur raison doit être bien au-delà de la science humaine. Voilà. Je pense qu'on... Est-ce qu'on peut avoir Padre Fortunato ?
Oui, voilà, Padre Fortunato à l'antenne. Voilà, Padre.
Voilà. Padre Fortunato ?
Sì, sì, ci sono.
Pace bene, padre.
Pace bene a te e a tutti coloro che ti ascoltano.
Voilà, donc je traduis, hein. Paix et bien à tous ceux qui nous écoutent. Alors, je présentais Padre Fortunato d'abord. Vi presento padre, hein. Et un amico, c'est un ami capucin. C'est le père gardien du couvent de Pietralcina. Pietralcina, c'est là où est né Padre Pio. Et c'est là où Padre Pio a reçu pour la première fois les stigmates dits invisibles et non permanents à Piana Romana. Padre Fortunato a été longtemps curé à Foggia. Donc c'est un spécialiste, vraiment le spécialiste, je peux dire, de Raffaele Cerase, cette fille spirituelle de Padre Pio. Et il y a un tome de l'épistolaire qui relate ces lettres entre Padre Pio et Raffaelina. Et il a écrit aussi des livres sur Padre Pio. Il fait partie du conseil général des groupes de Padre Pio à San Giovanni Rotondo et a été aussi coordinateur régional des groupes de Padre Pio d'Épouille. Ecco, fatto la presentazione, Padre Fortunato. Je lui demandais quand est-ce qu'il a rencontré Padre Pio. Padre Fortunato, quando lei ha incontrato Padre Pio per la prima volta?
La prima volta l'ho incontrato nel 1963.
Alors, il l'a rencontré pour la première fois en 1963. Et in che occasione?
In una visita che il padre direttore ci portò a fare a Padre Pio a San Giovanni Rotondo.
Donc, lui était novice capucin. Et avec d'autres jeunes avec lui, leur responsable les a amenés faire une visite à Padre Pio. Je lui demande s'il peut nous faire un témoignage personnel par rapport au stigmate de Padre Pio. Lei può farci una testimonianza personale in riguardo alle stigmate di Padre Pio?
Sì, sì. Quando andammo con il padre direttore nel 1962 a San Giovanni Rotondo.
Quand il est allé avec son directeur a San Giovanni Rotondo la première fois,
noi eravamo 100 ragazzi.
Eravamo tutti contenti
di andare a San Giovanni Rotondo.
Ils étaient tous contents d'aller à San Giovanni Rotondo.
Non facevamo scuola ed era una giornata di festa per noi.
C'était une journée de fête pour eux.
Quindi, arrivati a San Giovanni Rotondo, il padre direttore ci portò da Padre Pio.
Donc, arrivé à San Giovanni Rotondo, leur directeur les amène chez Padre Pio.
E noi facevamo chiasso nel corridoio davanti alla stanza di Padre Pio.
Alors, il faisait un peu de bruit dans le couloir devant la cellule de Padre Pio.
E proprio in quella circostanza il direttore diceva: fate silenzio, perché disturbate Padre Pio?
Alors, directeur le dit: soyez silencieux parce que vous dérangez Padre Pio.
Ma noi eravamo ragazzi e era festa per noi.
Mais nous étions des enfants, c'était la fête pour nous.
Padre Pio uscì dalla stanza e
Padre Pio sortì da sa cellula.
E io vidi in modo particolare che Padre Pio camminava normalmente.
J'ai vu
e
que
salutava
Padre Pio...
gli altri sacerdoti normalmente, abbracciandoli, dandogli la mano. E mi posi una domanda.
Alors, j'ai vu que Padre Pio marchait à peu près normalement avec d'autres prêtres autour de lui, alors je lui ai posé une question.
Ma ha le stigmate oppure no? Come fa a camminare se nei piedi ci sono le ferite e nelle mani ci sono le ferite. E ponevo questa domanda: come fa ad abbracciare? Come fa a salutare?
Alors je lui ai demandé, mais est-ce que vous avez les stigmates pour marcher comme ça, simplement dans les mains ou?
Et allora dissi tra di me, quando andrò a baciargli la mano, gliela voglio stringere.
Alors je me suis dit, j'étais enfant, hein, lorsque j'irai lui baiser la main, je vais lui serrer la main.
E così feci. Quando arrivò il mio turno per salutare Padre Pio,
quand arriva mon tour pour saluer Padre Pio,
presi la mano di Padre Pio e la misi in mezzo alle due mie mani.
J'ai pris la main de Padre Pio e je l'ai mis entre le due miennes.
E gliela strinsi forte.
E je l'ai serré.
Proprio volevo fargli male.
Je voulais presque lui faire du mal. Mal.
E Padre Pio mi guardò con gli occhi e disse, mi fa male, da lì esce il sangue.
Il m'a regardé fixement et il m'a dit, mais tu me fais mal, il y a le sang qui sort.
Allora capii che aveva io sotto le mie mani avevo stretto molto forte le mani di Padre Pio e quindi forse era uscita anche un po' di sangue.
Alors j'ai compris que j'avais serré un peu trop fort les mains de Padre Pio et que j'avais fait sortir un peu de sang.
Allora cercai di allontanarmi piano piano dal gruppo.
J'ai cherché de m'éloigner doucement du groupe.
E con la coda dell'occhio guardavo Padre Pio.
Je regardais Padre Pio.
E arrivati vicino alla porta, i miei occhi si incontrarono con quelli di Padre Pio.
E arrivé près de la porta,
guardai Padre Pio e lui mi fece un sorriso.
Je regardais Padre Pio qui m'a souri.
Come per dirmi, adesso sei contento, hai visto, io c'ho le stimate, c'ho le piaghe.
Comme pour me dire, tu es content maintenant, tu as vu, j'ai vraiment les stigmates.
Questa è la mia prima testimonianza che porto gelosamente dentro di me e ricordo molto bene quel giorno come se fosse proprio in questo istante.
C'était mon premier contact et ma première expérience avec les stigmates de Padre Pio que je garde au fond de moi-même et je m'en souviens comme si c'était hier. Ecco. Che cosa per lei, Padre Fortunato? Qual è il significato delle stigmate e che cosa è Padre Pio per lei? Je lui demande quel è la significazione des stigmates pour vous e che rappresenta Padre Pio per voi?
Per me Padre Pio rappresenta una persona speciale che il Signore in un periodo particolare ha voluto mandare sulla terra.
Pour moi, Padre Pio, c'est une personne particulière que le Seigneur a voulu envoyer à une période particulière sur la terre.
Et questo lo leggiamo proprio negli scritti di Padre Pio.
Et cela, on le voit vraiment dans les écrits de Padre Pio.
I fenomeni mistici che si sono verificati nella vita di Padre Pio incominciano proprio con il noviziato, cioè con l'ingresso in convento.
Oui, on le voit dans les écrits de Padre Pio et ça commence dès le noviciat, dès les premières années de Padre Pio.
Ecco. E i fenomeni particolari di Padre Pio ne abbiamo parecchi, il dono delle lacrime.
Oui, il y a beaucoup de phénomènes extraordinaires, le don des larmes, les parfums, bilocation. Padre Fortunato,
sì?
Sì. Lei è andato tante volte in America.
Sì.
Che cosa in America si pensa di Padre Pio? Je dis que Padre Fortunato est allé très très souvent pour accompagner des événements autour de Padre Pio. Et je lui demande comment les Américains perçoivent Padre Pio. En che cosa gli americani pensano di Padre Pio?
Ho avuto una bellissima testimonianza di Padre Pio dagli americani.
J'ai eu de beaux témoignages des Américains envers Padre Pio.
Vedono in Padre Pio una persona coerente.
Ils voient en Padre Pio une personne correcte.
Corretta e coerente nella vita.
È coerente dans son comportement dans sa vie.
Quindi vedono proprio una persona speciale mandata dal Signore sulla terra.
Il voit vraiment une personne spéciale mandée par le Seigneur sur la terre.
Perché l'uomo si converta, ritorna al Signore. E le stimmate sono segno di questa missione che il Signore ha affidato a Padre Pio.
Donc le Seigneur a envoyé Padre Pio sur la terre pour que les gens se convertissent, parce que les stigmates sont un signe pour pousser à cette conversion. Ecco, abbiamo fatto il giro, Padre Fortunato.
Sì.
La ringrazio e puoi darci una benedizione?
Sì, io vi benedico che San Pio da Pietrelcina interceda per tutti voi che ci seguite tramite Radio Maria e tutti voi devoti di Padre Pio, perché specialmente in questo periodo in cui forse la speranza viene meno, la fiducia viene meno, possiamo ritrovare il senso dell'amore del Signore e l'attenzione.
No, la benedizione viene potente.
Sì.
Padre Fortunato nous donne sa benedizione, soprattutto in questa periodo très, très critique.
Sì. La benedizione di Dio Onnipotente vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Voilà. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grazie, Padre Fortunato. Pace bene.
Prego, prego. Pace bene, pace bene.
Una prossima. Voilà, je vais continuer à parler rapidement des stigmates. Il y a la visite d'Agostino Gemelli qui était venu à Pietrelcina dans les années 1920. C'est une sommité Gemelli, hein. Il y a un hôpital qui porte son nom à Rome. Il est accompagné d'une dame qui s'appelait Armida Barelli, qui est vénérable, hein, qui est la fondatrice de l'Université catholique du Sacré-Cœur. Il était venu pour une visite privée. Il a rencontré Padre Pio que quelques minutes, mais il a fait un rapport très défavorable en disant que c'était pathologique. Bon, il était très ami avec le pape de l'époque, Benoît XI, et Padre Pio a beaucoup souffert, pas uniquement à cause de ceci, mais pendant les années qui ont suivi. Il a souffert de l'attitude de l'Église. Alors, pour des raisons que l'on comprend, c'est que l'Église n'aime pas les excès. Le fanatisme, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui venaient voir Padre Pio pour couper un morceau de soutane, un morceau de cordon, et il y avait des attaques aussi initiées par le clergé local qui était indigne. Donc Padre Pio a beaucoup souffert, ça commence en 1922 doucement, on lui a interdit de célébrer en public, de voir ses directeurs spirituels, d'avoir tout contact avec ses fils et filles spirituelles. On envisageait de le faire partir à Ancône, mais on n'a pas pu le faire parce que les gens de San Giovanni Rotondo ont manifesté. Mais pendant deux ans, de 1931 à 1933, Padre Pio n'a pas pu célébrer en public, il célébrait dans sa cellule. Voilà. À un moment donné, Padre Pio est opéré d'une hernie linguale. Et comme il ne pouvait pas montrer ses stigmates par ordre du Vatican, il n'a pas voulu être endormi, donc il est opéré sans anesthésie. Les stigmates de Padre Pio, il les aura jusqu'à la fin de sa vie. Quelques mois avant de mourir, les stigmates aux pieds ont disparu, les capucins s'en sont rendus compte, et celles des mains ont commencé à disparaître, à s'atténuer, peut-être six mois avant la mort de Padre Pio. À la dernière messe, on voit que sur une main, il n'y a plus rien, il y a un peu de rougeur sur l'autre main. Et lorsque Padre Pio meurt le 23 septembre, quelques dizaines de minutes après sa mort, on se rend compte que ses mains, ses pieds sont complètement lisses et que sa peau s'est complètement reconstituée. Et ça, c'est extraordinaire. Peut-être plus extraordinaire encore que l'arrivée des stigmates, parce que Padre Pio était âgé, comme les personnes âgées, il avait une circulation qui n'était pas très bonne. Il confessait, on voit Padre Pio avec un châle sur la tête. Pourquoi ? Parce que Padre Pio avait froid. Son sang ne circulait pas bien, il avait une bouillotte sur les genoux et une autre sous les pieds pour pouvoir se réchauffer. Et chez une personne faible comme ça, avec une mauvaise circulation, que les cicatrices se rétablissent spontanément, c'est quand même assez extraordinaire. Ça peut donner une idée de ce qu'est la résurrection. Voilà. Alors, les stigmates ne sont pas pris en compte dans la canonisation de Padre Pio. Maintenant, on va écouter simplement un chant du chœur de Pescara qui est animé par Padre Guglielmo.
Pour toi, Padre Pio, je dis merci au Seigneur, car quand je t'ai rencontré, j'ai fait sa connaissance. J'ai fait sa connaissance. Père, ton sang, ta a lavé mon âme, a guéri mes blessures, m'a mis dans le cœur l'amour de Jésus. Pour toi, Padre Pio, je dis merci au Seigneur, car quand je t'ai rencontré, j'ai fait sa connaissance, j'ai fait sa connaissance. Depuis lors, je marche sur le chemin que tu as marqué. La prière est mon souffle, les services est ma joie. Et les frères que tu m'as donnés sont mon soutien. Pour toi, Padre Pio, je dis merci au Seigneur, car que je t'ai rencontré, j'ai fait sa connaissance. J'ai fait sa connaissance. Père, tu es un don du Seigneur. En toi, il a fait des merveilles pour reconduire l'homme à lui. Il t'a demandé de souffrir pour nous sauver. Pour toi, Padre Pio, je dis merci au Seigneur, car que je t'ai rencontré. J'ai fait sa connaissance, j'ai fait sa connaissance. Pour toi, Padre Pio, je dis merci au Seigneur, car quand je t'ai rencontré, j'ai fait sa connaissance, j'ai fait sa connaissance.
Voilà, c'est le chœur du groupe de Padre Pio de Pescara qui est animé par Padre Guglielmo. Je veux simplement dire que Padre Guglielmo est vraiment un proche de Padre Pio et que son église de Pescara, tous les jours à 6h du matin, est pleine et que les gens de son groupe viennent prier le chapelet à 5h30 tous les jours. Ils ont préparé ça en français lorsqu'ils étaient venus à Paris il y a quelques années. Voilà.
Voilà, en tout cas, merci, merci infiniment Gino Testa pour cette émission très très riche, aussi bien en musique avec le beau témoignage de Padre Fortunato.
Merci à vous, hein, Radio Maria,
et merci beaucoup. Et puis Gino, on vous retrouve donc le mois prochain pour la suite. On continue avec Padre Pio, voilà. Avec vous. À bientôt.
À bientôt.